enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Nous voulons te dire à quel point tu es le bienvenu. Je n'ai personne d'autre en qui me confier. Je n'ai personne d'autre sur qui m'appuyer. Les hommes peuvent me trahir. Dès que je livre un secret, que je reconnais ma faiblesse et ma vulnérabilité, ils peuvent s'en servir pour me taper dessus. Mais en toi, je me confie. Tu n'abuseras pas de ces informations. Tu es le rocher de ma vie. Tu es mon partage. Tu es mon soutien. Tu es mon instructeur. Tu es mon coach et mon mentor. Tu es mon accompagnateur et mon protecteur. Tu es mon ange gardien et ma bannière. Tu es celui à qui je veux ressembler. Celui à qui je m'identifie. Tu es mon modèle. Tu es mon maître. Parle-nous cet après-midi. Instruis-nous, Seigneur, maintenant. Aide-nous, Père. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus, révèle Christ, inspire-nous, influence-nous, envahis-nous, sature-nous, déverse ton onction, tu brises les jougs, tu ôtes les fardeaux. Tu soulages les opprimés, tu guéris toute maladie, tu brises toute infirmité, tu consoles les cœurs brisés, tu soulages les opprimés et tu répands ta faveur divine. C'est l'année de la relâche, c'est la saison de soulagement, c'est la saison où les chaînes tombent. Révèle-toi, que ton onction soit sur ton peuple maintenant, et que ta puissance soit libérée, que ta parole soit communiquée avec vie et puissance, et qu'elle produise les effets escomptés et attendus, Seigneur. Confirme ta parole, inspire ta parole, change-nous, délivre-nous, transforme-nous, métamorphose-nous. Un changement de forme. D'un perdant, quelqu'un devient un gagnant. D'une victime, quelqu'un devient un vainqueur. Transforme, Seigneur. D'un enfant, quelqu'un devient fils de Dieu. Fais-le, fais-le. Te rendons toute la gloire. Te rendons la gloire. Révèle ta gloire. Glorifie-toi. Fais éclater ta gloire. Avant la fin de cette année, nous n'aurons pas un témoignage. Nous aurons des cascades de témoignages. Pas à cause de ce que nous le méritons, non, non, non. Mais à cause de ta bienveillance, à cause de ta miséricorde, à cause de ta faveur, à cause de ton alliance, à cause de ton amour, à cause de ta fidélité, à cause de ton assistance. Et à nous dire, ce n'est pas de moi, ça vient de lui. Nous dirons, ce n'est pas de moi, ça vient de lui. Les portes fermées deviennent ouvertes. L'impossible devient possible. Les maladies incurables sont guéries. Les jougs qui pesaient depuis longtemps sur ton peuple sont brisés. À cause de l'onction, à cause de l'onction, à cause de l'onction. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur. Saisis, saisis, saisis maintenant, saisis, saisis. Saisis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois le maître. Dans le nom de Jésus. Avec action de grâce, nous t'avons prié.
Amen.
Hey, we welcome you. Non, je n'ai pas dit d'applaudir quelqu'un, j'ai dit d'acclamer. Nous t'acclamons. Un ressuscité t'acclame. Hey, no, 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 Samanaya. We welcome you. We welcome you. Ha, Mateya Rababo Sakaya Namataya. We welcome you. We welcome you. We welcome you. Amen. Amen. Ah, amen. Thank you. Merci Seigneur. Venez vous asseoir dans sa présence. Merci Expression Impact. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez bien noté, chacun de vous doit avoir ce flyer pour le dimanche 2 décembre. C'est extrêmement important. Christian a déjà expliqué, mais je le redis encore. Ne commettez pas l'erreur de venir ici le dimanche 2 décembre, il n'y aura personne. Nous serons tous le dimanche 2 décembre à Rungis. Vous avez toutes les coordonnées au dos. Et nous allons avoir un méga culte de célébration tous ensemble. Ça va être l'occasion pour les enfants de montrer ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ont préparé pour Noël. Ça va être une occasion pour la jeunesse de montrer ce que Dieu leur a appris. Et ça va être une occasion encore pour toute l'Église de se réjouir et de communier et de célébrer ensemble. Et on va avoir un méga agapé, comme ça a été dit tout à l'heure. L'Église grandit, il y a beaucoup de monde et les gens ne se rencontrent pas. Et c'est vraiment important. Vraiment important pour nous de communier. Une Église où les gens viennent le dimanche et repartent à la maison, franchement, ce n'est pas ça l'Église. L'Église doit sous-entendre la communion fraternelle. On doit être ensemble, vivre ensemble. Et parce qu'il y a une seule qui pleure depuis trop longtemps pour son mari. Et il est sûrement dans un des cultes peut-être, mais elle ne le reconnaît pas encore. Donc par un seul culte, elle va peut-être le voir. Et quand elle le dira, elle dira, mes yeux t'ont vu. Le salut d'Israël. Non, tu ne diras pas d'Israël, tu diras le salut de, je ne sais pas quoi, mais enfin, moi tu diras. Il y a un frère qui va voir une soeur qui va dire, Seigneur, je la cherchais. Elle était à ICC, mais je ne la voyais pas. Parce qu'il y avait trois cultes. Et donc c'est important d'avoir. Et donc après le culte de ce jour-là, il ne faudra pas partir parce que nous voulons communier ensemble. Et ça sera vraiment l'occasion de prendre le temps de parler. Il ne faut pas rester seul dans son coin, ce n'est pas possible. Nous devons prendre le temps de communier ensemble et vraiment être une famille. Nous sommes une famille, nous ne sommes pas juste une église de dimanche, nous sommes une famille spirituelle. Amen. Et la richesse de la famille spirituelle, sa particularité, c'est que alors que la famille physique humaine s'arrête à la mort, la famille spirituelle va au-delà de la mort, parce que nous nous reverrons au ciel. Donc nous devons communier ensemble maintenant, afin de ne pas dire au ciel, je ne suis jamais connu. Tu étais à ICC toi aussi? En mort, tu étais de quel côté? Non, non, non. On va tous se connaître ici et quand on va aller au ciel, dans la présence de Dieu, on se connaîtra encore. Quelqu'un dit amen.
Amen.
Amen. Bon, toi, tu n'as pas envie de connaître apparemment ton voisin. Okay. Tant pis. Mais nous, en tout cas, voilà, donc c'est vraiment important. Et donc notez bien ça, le dimanche 2 décembre, tout le monde, et il faudra inviter du monde. La salle prendra pour 1000 places. Et c'est aussi important. En tout cas, vous allez voir que ça va nous faire du bien. Sachez que pour votre information, pour nos trois cultes, nous dépassons maintenant les 900 personnes. Et donc nous sommes en train de penser sérieusement à un quatrième culte. Peut-être avant la fin de l'année, puisque le troisième culte sera bientôt plein, il a dépassé les 4/5 quasiment. Et donc vraiment, gloire à Dieu. Et on reconnaît là que c'est Dieu qui bâtit l'église, que c'est certainement pas un homme. Est-ce que tu peux dire amen à ça?
Amen.
Voilà, donc c'est pour ça que c'est lui que je veux acclamer, parce que je reconnais que c'est lui qui fait ces choses. C'est lui qui fait ces choses. Et notre fierté de faire partie de cette famille spirituelle réside dans le fait pas seulement qu'il y a du monde, mais surtout que les vies sont transformées. Voilà, c'est ça ma fierté, c'est de voir des vies qui changent. Des gens qui viennent ici, qui sont broques. Hein? Il y avait des archevêques, moi j'ai découvert des archebroques. Mais quand ils arrivent ici, ils s'assiedent, je t'assure, la parole les fouette, la communion, l'amour, la sincérité, les valeurs de Christ font en sorte que les gens sont transformés. Et il n'y a rien de plus glorieux que ça. Il n'y a rien de plus beau et ça vaut la peine de payer le prix que l'on paye. Ça vaut la peine de faire trois cultes, bientôt quatre s'il le faut. Enfin, quoi que le quatrième culte, je vais peut-être trouver quelqu'un pour prêcher, mais... En tout cas, Dieu est fidèle. Amen. Voilà, aujourd'hui, je vais continuer ce que j'ai laissé il y a 2 semaines. Nous avons commencé le pilier numéro 1, le chapitre numéro 1, toujours dans notre série « Deviens la personne que tu devrais être ». Qu'est-ce que tu peux dire à ton voisin ? « Deviens la personne que tu dois être ». Oui, parce que vraiment, nous, on attend la manifestation du vrai toi. Tu ne peux pas prendre plaisir à être une photocopie de quelqu'un d'autre. C'est bien d'aimer Zidane, mais tu ne peux pas prendre plaisir à être Zidane. C'est bien d'aimer le pasteur Jacques, mais tu ne peux pas prendre plaisir à être le pasteur Jacques. Il n'y en a qu'un seul, c'est lui, l'alpha et l'oméga. Il est dans son domaine, c'est le seul. C'est le seul. Hein? J'ai essayé de voir comment il fonctionne, mais je n'y arrive pas. Donc j'ai compris que c'est le seul, vraiment, effectivement. Hein? Et donc tu dois être toi. Il y a quelqu'un dont le monde attend la manifestation. Le monde attend la manifestation de la personne que Dieu a créée à son image et que Dieu a placée à l'intérieur de toi, mais qui n'est pas encore sortie. Je suis convaincu qu'alors que cette série continue, elle dure plusieurs mois, je suis convaincu qu'avant la fin de cette série, tu ne peux plus être la même personne. Dis amen.
Amen.
Voilà, nous avons commencé par le pilier numéro 1 après l'introduction que nous avons faite. Et nous avons dit que le pilier numéro 1, c'est d'abord le fondement sur lequel toute vie doit être bâtie, c'est connaître son identité, la connaissance de ton identité. Et nous avons vu qu'on ne peut pas connaître son identité si on ne connaît pas son père. Et nous avons dit que son père, ce n'est pas juste le papa qui m'a enfanté. Le père, celui que tu détermines comme étant ton père et celui que tu définis également comme étant ton repère ou encore ton référentiel. Voilà pourquoi si tu t'arrêtes à Abraham seulement comme étant ton père, tu vas commettre l'erreur qu'un pasteur m'a fait une fois. Il est venu et puis il me dit quelque chose et puis il ment. Je sais qu'il ment, Dieu sait qu'il ment, lui sait qu'il ment, mais il ment quand même. Je dis, mais pasteur, pourquoi est-ce que tu mens comme ça? Il me dit, mais Abraham a menti. Voilà. T'as dit, son père c'est Abraham, donc sa référence c'est Abraham. Puisque Abraham a menti, lui aussi peut mentir. Vous comprenez? Donc comprendre, connaître le père, connaître la source, c'est quelque chose de très important. Et Jésus est venu dire à ses disciples, en réalité, vous êtes tous amnésiques, vous avez tous une crise d'identité. Votre père, ce n'est ni Abraham, ni Jacob pour les Samaritains. Votre père, c'est Dieu. Dieu est votre père, Dieu est votre source. Donc, vous êtes sa ressource. Vous êtes sorti de lui. Et je vous ai dit il y a 2 semaines que le fait d'être sorti de lui, ça change tout. Parce que nous avons vu que la qualité de la source détermine la qualité de la ressource. La longévité de la source détermine la longévité de la ressource. La nature de la source détermine la nature de la ressource. S'il est saint, je trouve naturel d'être saint. Si c'est quand je ne suis pas saint, je trouve dénaturé, défiguré. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Lorsqu'il est puissant, je trouve naturel d'être puissant. Lorsqu'il opère dans le miracle, je trouve naturel d'opérer dans le miracle et dans le surnaturel. Parce que c'est sa ressemblance. Dis à ton voisin, connais ta source. Connais ton père et ne te trompe pas de père. Ne te limite pas à ton papa biologique. Ce n'est pas lui ton père. C'est ton père dans l'état civil, c'est ton père biologique. Mais nous parlons d'un père spirituel. Mon père physique est celui qui m'a mis, est celui par qui je suis venu au monde. Mais mon père, mon véritable père, est celui qui m'a créé, c'est-à-dire l'esprit. L'incarnation de mon corps, ce n'est pas mon commencement. Le jour où je suis né, n'était pas le commencement de ma vie. J'étais déjà, j'existais. La Bible dit qu'il m'a connu d'avance et m'a mis à part en Christ avant la fondation du monde. C'est ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Dieu connaît toutes choses à l'avance. C'est ce qu'on appelle la prédestination. La préscience, il connaît. La prédestination, c'est qu'il m'avait déjà placé en lui avant la fondation du monde. Avant que je ne sois conçu dans le ventre de ma mère, il me connaissait déjà. Le mot connaître là, c'est le mot hébreu, yada. Ça veut dire que nous étions déjà en relation. Nous étions déjà proches. Nous étions déjà intimes. Voilà pourquoi lorsqu'il parle, il ne dit pas viens. Il dit reviens. Revenez à moi, je reviendrai à vous. Soyez renouvelés. Chaque fois que vous voyez le préfixe re, ça nous ramène à quelque chose qui était déjà intact et qui a été endommagé par le péché. Voilà pourquoi il dit revenez, repentez, renouvelez, restaurez. Tous les re là veulent dire revenir à ce qui était déjà intact au départ. Quelqu'un dit amen. Est-ce que c'est clair? Alors aujourd'hui, je vais voir avec vous, on a vu le fondement, l'importance de l'identité. Je vais maintenant voir avec vous comment est-ce que nous acquérons notre identité. Naturellement et spirituellement, comment est-ce que le fait de connaître son identité, ce n'est pas connaître son nom et son prénom. Il y a beaucoup plus que ça. L'identité, c'est la perception d'abord de soi. Comment est-ce que je me perçois? Comment est-ce que tu te perçois? Jean chapitre 1, verset 1 à 3 et verset 10 à 13. Jean chapitre 1, verset 1 à 3 et verset 10 à 13. Si vous y êtes, dites amen. Si vous n'y êtes pas, dites aïe. Ce n'est pas la peine de chercher après Genèse. C'est plus loin. Quelque chose s'appelle l'Apocalypse. Mon Dieu. Baisse la tête, cache-toi et donne une pièce de 1 euro à ton voisin. Il lui dit, aide-moi à trouver Jean. Jean chapitre 1, verset 1 à 3 et verset 10 à 13. On y va. Au commencement était... Au commencement était... La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors je lis avec la version nouvelle, la Bible seconde, qui est un peu différente de la version du second classique. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle. Tout est venu à l'existence par elle. Et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence. La parole était la lumière du monde, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle. Mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tout, la version Louis II dit, elle est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, ni de volonté de chair, ni de volonté d'homme, mais ils sont nés de Dieu. Je vais partager avec vous 2 choses ce matin. Premièrement, comment est-ce que notre identité est construite? Et comment notre perception de soi est construite, notre perception de nous-mêmes est construite. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les chrétiens de marcher dans leur identité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu? Pourquoi c'est si difficile? La première chose que je vais vous dire, c'est que comment construit-on une identité? Comment construit-on la perception de soi? Elle est très simple. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la Bible nous dit que rien n'a été fait sans la parole. Tout ce qui a été créé par une parole. Les plus grands criminels, tueurs en série, les prochains Frankenstein ou Dracula sont bâtis généralement dans les familles d'aujourd'hui. Ce sont des enfants aujourd'hui qu'on est en train de maltraiter, de tuer avec des paroles. Des paroles sans cesse négatives, critiques, décourageantes, humiliantes. Et c'est la meilleure manière de produire demain un monstre. Et si tu veux produire un champion, tout se fait par la parole. Tu veux produire un monstre, tout se fait par la parole. La Bible dit au commencement était la parole, au commencement n'était pas les jouets. Parce que quand on a un enfant, on lui donne des jouets, mais on ne lui donne pas d'affection, pas d'amour, pas d'encouragement. Je te garantis qu'il préfère avoir, des paroles d'amour, d'encouragement, de reconnaissance, des paroles qui le soutiennent plutôt que d'avoir des jouets et que papa et maman ne sont pas là pour lui donner des paroles. Comment est-ce que on arrive à donner une bonne perception de soi à un enfant? Et là, je parle aux parents, à toi qui dis à ton enfant, bête, idiot, hein, tu n'es, maman, ne fais jamais ça. Si tu as fait ça, repens-toi. Tu es en train de préparer un tueur demain. Tu dois préparer un champion, pas une calamité. Amen. Comment fait-on? La première chose que l'on fait, c'est qu'on doit faire en sorte que l'enfant se sente désiré, apprécié, célébré. On doit faire en sorte que l'enfant se sente désiré, apprécié et célébré. Ensuite, comment fait-on pour éduquer un enfant, lui donner une bonne identité, une bonne perception de lui-même? En prenant sur lui des paroles. Régulièrement, des paroles d'encouragement, des paroles d'amour, des paroles d'encouragement, des paroles de foi, des paroles de louange, des paroles de célébration, des paroles. Ce sont des compliments qu'on fait à un enfant. Est-ce que quelqu'un peut dire compliment? La troisième chose qu'on fait, c'est qu'on emmène l'enfant à oser des choses qu'il n'a jamais faites. On l'emmène à faire des choses qu'il n'a jamais faites parce que plus tu fais, plus tu performes. Quand ça réussit, tu prends confiance en toi et ta confiance en toi-même grandit. Est-ce que vous me suivez? C'est bien d'encourager l'enfant par des paroles, mais s'il n'essaie jamais, il n'aura pas confiance en lui. Il va toujours hésiter. Et la quatrième chose, c'est que quand il ne réussit pas, on le rassure tout de suite pour faire comprendre que l'échec n'est pas son histoire. L'échec n'est pas son identité, parce que dans la vie, tout le monde connaît des revers. Et quand on veut faire réussir un enfant, on lui montre que même s'il a échoué, il n'est pas un échec. Il est brillant, il est intelligent, il est talentueux. On lui fait comprendre simplement que les échecs sont soit une indication de ce qu'on n'est pas dans le bon domaine, soit une indication simplement qu'il faut mieux essayer la prochaine fois. Mieux reculer pour mieux sauter. Voilà comment nous construisons l'identité des enfants lorsqu'on veut que les enfants soient bien construits. Et vous allez vous rendre compte que Dieu opère de la même manière. Et d'abord, Dieu emploie beaucoup d'énergie à nous faire comprendre, à nous faire sentir que nous sommes acceptés par lui, célébrés et désirés par lui. Voilà pourquoi, première des choses qu'il fait, il met sa présence. Il vient lui-même habiter. Le fait qu'il vienne habiter avec toi, c'est une manière de te dire, même si tu es sale, même si tu es broke, même si tu es down, je suis content de venir habiter avec toi. Il emmène sa présence dans le temple que je suis. Et Dieu me donne beaucoup de paroles. Il dit, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Il dit, tu es une créature si merveilleuse. Il dit, par le psalmiste David, il dit, qu'est-ce que l'homme, que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Voici, tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. Tout ça pour que tu prennes conscience du fait que tu es quelqu'un d'unique et d'extraordinaire. Quelqu'un dit amen. Il dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne promène pas des regards inquiets, je suis là. Avec toi. Lorsque tu passeras par les eaux, elles ne te submergeront pas. Lorsque tu passeras par le feu, il ne te brûlera pas. Je suis avec toi tous les jours. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de te rassurer. Il est en train de te sécuriser. Il est en train de te montrer que tu comptes pour lui. Et c'est comme ça. C'est la même chose que nous faisons avec nos enfants. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est simplement l'application d'un principe spirituel et d'une sagesse que Dieu a donnée à l'être humain. S'il veut éduquer convenablement ses enfants. Quelqu'un dit amen. La chose que Dieu fait ensuite, c'est qu'il nous emmène à réaliser des exploits. La Bible dit, ceux qui croiront en leur Dieu, ceux qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté et feront des exploits. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, au verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Je ne me contente pas moi de faire. Ceux qui croient en moi vont faire comme moi, ils feront même mieux que moi. Il nous emmène à faire des exploits. Comme ça, ça grandit en confiance. Je te dis, le jour, toi, c'est bien d'apprendre les théories, mais tant que tu n'agis pas, tu ne vas pas constater que ça marche. C'est bien de savoir, oui, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, mais tant que tu ne vas pas essayer de chasser un démon toi-même en live, sans appeler le pasteur Jacques. Mais le jour où tu réussis à chasser un démon, où tu vois le démon, il tremble. Quand tu dis au nom de Jésus, il fait aaaah! Tu dis un mot. C'est puissant ça. Je ne suis pas n'importe qui alors. Dis donc, quelqu'un dit amen. Je te dis, tu prends confiance en toi parce que tu te rends compte que purée. Mais Jésus a dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est là. Tu vois, si par l'Esprit de Dieu, je chasse les démons, mais c'est que, dis donc, le royaume est là, mais le royaume est en qui? En moi. Donc le roi c'est qui? C'est moi, Christ en moi, c'est le roi. Donc dis donc, ma présence là, dis donc, c'est quelque chose. Hein? Non, la prochaine fois tu vas vers un autre démon, tu as vu, je suis là. Donc tu prends confiance. Tu vois, plus tu prends confiance, plus tu oses. Moins tu prends confiance, moins tu oses. Quelqu'un dit amen. Et c'est ce que Dieu fait. Il nous emmène à faire ce qu'il fait. La Bible dit, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Il ne parle pas que de Jésus, il parle de Christ. Or, Christ était en Jésus, et quand Jésus est parti, Christ est resté. Il est en qui? Non, il est en qui?
En moi.
Merci, il est en moi. Pas la peine de dire en nous, chacun son histoire là. Il est en... Voilà. Et la troisième chose que Dieu fait, c'est que Dieu nous rassure devant les revers de la vie. Dieu nous encourage, même quand tu échoues, même quand tu échecs, même quand tu connais des échecs, même quand ça ne marche pas comme tu veux, Dieu te donne des paroles, il te dit, cette fois le juste tombe, l'Éternel le relève.
Amen.
Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce les tribulations, persécutions, famine, disette, galère, fauché, broqueté, tout ça là? Il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Je te dis, quand toutes ces choses nous sont plus que vainqueurs, ces choses qui ont l'air d'être des échecs, les calamités, les désastres, les détresses qui ont l'air d'être des échecs, il te dit, il t'emmène à proclamer une proclamation triomphale en disant, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, ça veut dire, l'échec ne peut pas être mon histoire. Ce n'est pas marqué sur mon front, ni dans mes codes génétiques. Je te dis, dans tout en moi, dis gloire.
Amen.
Tu as loupé une bonne occasion pour dire amen.
Amen.
Et même lorsque tu as chuté, il te dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Jamais tu n'as commis un péché. Dieu est venu te voir pour te dire, encore. Là, c'est trop. Jamais. Jamais, même quand tu avais promis de ne pas tomber et que tu es tombé, chaque fois qu'il vient, il dit, ok, j'ai vu où tu es. Souviens-toi d'où tu es tombé. Apocalypse chapitre 2, verset 5, et repens-toi. Relève-toi et remets-toi en selle. Avance, je ne te condamne pas. Je sais, les gens veulent te jeter des pierres, mais moi je ne te condamne pas. Lève-toi, va, ne pêche plus. Quelqu'un dit amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et c'est comme ça qu'il façonne en nous son image et son caractère. C'est comme ça qu'il change la perception. Parce que hier, quand tu te plantais, quand tu avais promis de faire bien, que tu as fait mal, les gens te prenaient des cailloux pour te jeter dessus. Jamais il prend un caillou pour te lapider. Toujours il te dit, d'accord, je te pardonne, relève-toi. Relève-toi, va et ne pêche plus. Et même quand tu as péché encore, il dit, repends-toi. Souviens-toi de là où tu es tombé. Relève-toi, allez en route. Quelqu'un dit amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et la dernière chose qu'il fait, c'est qu'il prononce sur nous des paroles. Il prononce sur nous des paroles. Beaucoup de paroles. Éphésiens chapitre 1, verset 3 nous dit ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu a prononcé toutes sortes de bonnes paroles sur Christ. Et je vous ai dit, il y a 2 semaines, que l'identité détermine l'identification. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous place en Christ et tout ce qu'il a prononcé sur Christ devient vrai pour moi. Parce que je suis en lui. Ce n'est pas vrai si tu n'es pas en lui. C'est vrai quand tu te greffes à Christ. Quelqu'un dit amen. Alors, la Bible dit, béni soit Dieu. Quelqu'un dit, béni soit Dieu. Le mot bénir vient du mot grec eulogéo ou eulogéo. Sors de là et puis dis à quelqu'un eulogéo. E-U-L-O-G-E-G-E-O. Ça veut dire quoi? Eu, ça veut dire bien en grec. Et logéo, ça vient du mot logos, qui veut dire parole. Donc, bénir, c'est prononcer des paroles de bien. Ou encore, eulogéo, eulogéo, je peux dire aussi comme ça, c'est de là que vient le mot français éloge. C'est-à-dire un compliment, une parole positive, une parole d'approbation, une parole d'encouragement, une parole de libération, une parole qui te fait du bien est une bénédiction. Alors, quand il dit ici, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il est en train de dire, prononçons du bien, prononçons des compliments à Dieu. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle la louange. Je célèbre, je bénis, je rends grâce, je dis du bien de Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lui-même, il nous a bénis. C'est-à-dire, il a prononcé toutes sortes de compliments et de belles et précieuses paroles sur nous en Christ Jésus. Et ces paroles sont spirituelles. Mais la parole est spirituelle, la parole est esprit. Quelqu'un dit amen. Donc Dieu a prononcé toutes sortes de belles paroles. De Genèse à Apocalypse, toutes les promesses,
sont des paroles que Dieu prononce. Ce sont des graines que Dieu lance dans le jardin. Dans le champ de ton cœur, il balance les paroles. Pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole. Rien n'a été créé sans parole. Quelqu'un qui doute, qui a une mauvaise image de lui, la raison pour laquelle les gens ont mauvaise image, les gens doutent, les gens ont peur, c'est parce qu'il y a des paroles qui sont rentrées à l'intérieur. Et quand je dis paroles, des fois c'est des choses qu'on a dites, ou des fois c'est des choses que tu t'es dit. Ce sont des paroles silencieuses qu'on appelle pensées. La pensée est une parole. Tout est façonné, créé par la parole. Il n'y a rien qui ne se fait sans parole. Quelqu'un dit amen. Alors j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi est-ce qu'on rencontre des gens qui sont toujours broke malgré tout ce qu'ils entendent, malgré tout ce qu'on dit? Tu dis, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde, tu es la justice de Dieu, tu es comme lui il est, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Puisqu'il est excellent, je suis excellent. Puisqu'il est glorieux, je suis glorieux. Puisqu'il est puissant, je suis puissant. Il dit plein de bonnes paroles sur toi et moi. Il dit, rendant grâce à Dieu le Père, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Christ a été fait malédiction pour nous, Christ a été maudit à la croix pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham puisse avoir pour nous son accomplissement en Jésus-Christ. Donc il a été maudit pour que je sois béni. Tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Autant de bonnes nouvelles. Parce que quand tu étais maudit, quand tu marchais dans la malédiction, le jour où on vient te dire maintenant tu es béni, naturellement tu as tendance à douter. Tu es sûr? Non, c'est fini. Il dit tout est accompli. Toi tu dis non, ça continue. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui, malgré tout ce qu'ils entendent, ne changent pas? Est-ce que tu connais quelqu'un qui, malgré tout ce qu'il entend, ne change pas? Non, pas toi, mais est-ce que tu connais au moins quelqu'un? Enlève au moins la main si tu connais pas quelqu'un. Enlève la main si tu connais quelqu'un qui entend la parole, mais qui ne change pas. Ouh, il n'y a personne qui ose lever la main, mon Dieu. Je ne dis pas toi, je parle de quelqu'un que tu connais. Ne te sens pas menacé? Voyons. Qu'est-ce qui vous arrive au deuxième culte? On est ensemble? J'ai dit, si tu connais quelqu'un qui entend la parole mais qui ne change pas vraiment, lève la main simplement. On ne parle pas de toi, il n'y a pas de problème. Donc toi, le reste, là, tu ne connais personne. Donc ça veut dire que tu ne témoignes à personne. Mon Dieu, tu dois annoncer l'évangile, témoigner. Alors j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi les gens, malgré le fait qu'ils entendent ta parole, ils ne changent pas? Dieu m'a dit, il m'a ramené dans Jean chapitre 1, au verset 12, il dit, le verset 11 dit, elle est venue vers les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçue. Dieu me dit, la parole est venue, mais vous n'avez pas reçue. C'est-à-dire, vous n'avez pas accepté. Vous n'avez pas accepté. Et voilà pourquoi la plupart des gens ne changent pas. Pourquoi? Parce que la parole, bien qu'elle soit puissante, bien qu'elle soit comme un feu dévorant, bien qu'elle soit comme un marteau qui brise le roc, bien qu'elle soit comme une épée à double tranchant, cette parole, quand elle n'est pas reçue, elle n'est pas acceptée dans le champ de mon cœur. La plupart d'entre nous, cette parole, lorsqu'elle entend, lorsqu'elle est entendue, elle vient se déposer sur le sol, le ciment de nos têtes. Elle n'arrive pas à rentrer dans le champ de nos cœurs. Voilà pourquoi elle ne porte pas de fruit. Dis avec moi la parole. Marie a conçu, pas parce que l'ange Gabriel a parlé. Marie a conçu parce que lorsque l'ange Gabriel a parlé, elle a dit à l'ange Gabriel, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc elle a accepté. Et lorsqu'elle a accepté, elle a déclenché un processus. Quelqu'un dit amen. Elle a déclenché un processus qu'on appelle la conception. Lorsque Dieu dit, tu es délivré de la puissance des ténèbres. Toi tu dis, d'accord, mais je sens encore que je suis lié. Attaché. Dieu dit, est-ce que c'est ce que je t'ai dit? La parole est venue, tu ne l'as pas reçue. Dieu dit, par ses meurtrissures, le Fils, le Christ, a été meurtri, percé dans son corps, pour que mon corps soit guéri. Dit, oui, mais je sens quand même la maladie. Dieu dit, ok, on refait un autre coup. Troisième tentative. Ta vieille nature qui te faisait pécher, que tu as hérité de Adam et qui était colérique, irritable, amère, jalouse, insécurité en permanence. Cette vieille nature a été enterrée avec Christ. Lorsqu'il était en train d'être crucifié, lorsqu'on tapait sur lui les clous, en réalité, on était en train d'immobiliser, de taper les clous sur ta vieille nature. Tu dis, oui, c'est vrai ça. Mais je sens encore l'adultère et la fornication, les mauvaises pensées, elles sont encore là. Non, ce que tu dis, c'est bien. Mais moi, je sens autre chose. Et le problème, c'est le « je sens » là. Pourquoi je sens? Parce que nous avons été programmés dès notre enfance à développer que nos cinq sens. Tout ce qui sort du champ des cinq sens n'est plus réel. Ça devient utopie. Et les scientifiques vous disent, certains qui ne croient pas en Dieu, vous disent que tout ce qui ne peut pas être observé par les cinq sens et tout ce qui ne peut pas être testé et répété n'est pas une vérité irréfutable. Et on vous dit que tout ce qui n'a pas de sens, c'est-à-dire littéralement tout ce qui n'a pas de sens dans les cinq sens, tout ce qui ne rentre pas dans la catégorie de cinq sens est un non-sens ou encore est insensé. Et nous avons grandi comme ça. Dès la maternelle, nous sommes programmés à fonctionner comme des mammifères. Puisque nous sommes, soi-disant, le produit d'un chimpanzé évolué. Et lui, il fonctionne par les cinq sens. Alors, chacun de nous fonctionne aussi par les cinq sens. Et donc, tout ce qui n'est pas perceptible par les sens n'est pas réel. Hein bon ? Qui t'a dit ça ? Or, l'être humain n'est pas un animal. C'est un esprit créé à l'image de Dieu. Mais il se comporte comme un animal dans la mesure où on l'a programmé, paramétré, un mensonge du diable. On l'a paramétré pour fonctionner uniquement avec les cinq sens. Tout ce qui sort de là n'est pas réel. Est-ce que vous me suivez ?
Amen.
Voilà pourquoi la plupart des gens n'ont pas de vision. Pourquoi la plupart des chrétiens n'ont pas de vision ? Même quand il vient à Jésus, il n'a pas de vision. Pourquoi ? Parce que tout, vous savez, je suis un esprit. Et tout ce qui n'est pas développé finit par s'atrophier. Amen. L'être humain est un esprit. On nous a appris à développer nos capacités sensorielles, donc dans les sens, mais pas nos capacités spirituelles. Alors la plupart des gens n'ont pas de vision, mais j'ai compris pourquoi. Parce que très tôt dans l'enfance, on nous a appris à fonctionner avec les sens. Tout ce que je ne vois pas, je ne regarde pas de mon regard, n'est pas une réalité. Or, la foi m'emmène à voir ce qui n'existe pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, la foi nécessite de développer des facultés spirituelles et pas sensorielles. Or, les animaux n'ont pas appris ça. L'animal, on fait, non, ce n'est pas possible. Et donc, le fait est que la plupart des gens n'ont pas de vision. La plupart des gens n'ont pas la foi. Parce que je l'ai dit, la foi voit. La plupart des gens ne voient pas des miracles. Pourquoi ? Parce que pour voir des miracles, il faut quitter les cinq sens pour aller dans le surnaturel. Il faut quitter le naturel pour aller dans le surnaturel. Or, si pendant toute mon enfance, on m'a habitué à juste me contenter de ce qui est naturel, j'ai du mal à comprendre que dans la parole, il y a une réalité. Dans la parole, il y a une vie. Mais on m'a appris que cette vie n'existe pas. On m'a appris à dépendre uniquement de mes cinq sens. Or, dans l'esprit, il y a l'intuition. Dans l'esprit, il y a la conscience. Et lorsque tu apprends à quelqu'un qu'il n'est pas un esprit, c'est un animal, donc il n'a plus de conscience. Et quand il n'a plus de conscience, ça veut dire que la loi de Dieu qui est inscrite dans la conscience de l'homme, il s'en fout. Quand la conscience dit, ne couche pas homme avec homme, oh là 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 là. Quand la conscience dit, mais il n'écoute pas la conscience, un animal n'a pas d'esprit. Un animal a une âme. Un animal n'a pas de conscience. Quelqu'un me dit amen. Alors on a tué la voix de la conscience. Et lorsque la conscience te dit, ne sors pas avec l'ami de ta meilleure copine, la conscience te dit quand même des choses. La conscience te dit, maîtrise-toi. Mais quand on n'a pas la conscience, on fonctionne comme un animal. Un chien, quand il voit une chienne, il aboie. Waouh, waouh. Et il n'a pas de pulsion, il n'a pas appris la maîtrise de soi. Dans les cinq sens, il n'y a pas la maîtrise de soi. C'est quelque chose qui est un fruit de l'esprit. Quelqu'un dit amen. Donc ça sort de l'esprit. La maîtrise de soi sort de l'esprit. Mais quelqu'un à qui on a fait comprendre, on n'a pas appris à développer ses facultés spirituelles. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il voit une femme, son corps commence à vibrer tout seul. Il dit, waf waf, je dois aller vers elle. Non mais gars, ça c'est pas bon. Tu risques de commettre l'adultère. Tu risques de commettre l'adultère, la fornication. Waf waf. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Il sait aboyer et quand il aboie, il ne réfléchit pas. Il n'y a pas la maîtrise de soi qui vient de l'esprit. Quelqu'un dit amen. Et je vais plus loin. L'intuition. Est-ce que tu sais que par l'intuition, tu peux prévenir beaucoup de dangers? Par l'intuition, tu peux arriver à discerner les faux gars ou les bons gars. Par l'intuition, tu peux arriver à discerner les mauvaises opportunités et les bonnes opportunités. Mais si l'intuition n'est plus développée par la communion avec le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, mais quand tu dépends uniquement de tes cinq sens, mais l'intuition n'existe plus. Et quand l'intuition n'existe plus, nous nous retrouvons dans le cas de la plupart des chrétiens qui sont encore au niveau charnel. Parce que c'est l'homme spirituel qui sait discerner les choses spirituelles. L'homme charnel est exactement comme un homme animal. Sauf que l'homme charnel est sauvé. Il a reçu Jésus, mais c'est un bébé. L'homme animal n'a pas reçu Jésus et il ira en enfer. L'homme charnel a reçu Jésus, mais il est un bébé, il est totalement ignorant et il opère au même niveau qu'un homme animal. Le païen ne sait pas discerner qui est le bon conjoint et les chrétiens aujourd'hui ne savent pas discerner comment reconnaître le bon mari, la bonne femme. Pourquoi ? Parce que les facultés spirituelles n'ont pas été exercées et développées. Dans la première, après, dépend des cinq sens. Les cinq sens disent quoi ? L'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher et la vue. Donc, comment tu fais pour savoir que quelqu'un t'aime ? Ah, il faut qu'il me caresse. Mais on peut pas s'aimer dans l'amour. Mais quand tu parles de s'aimer dans l'amour du Seigneur, discerné par l'Esprit que c'est le bon conjoint, c'est trop compliqué. Alors, il faut soit le toucher, donc soit les caresses, soit on passe à l'acte. Là, au moins, on peut goûter. Parce qu'il n'arrive pas à goûter par l'esprit. Tu comprends? Il n'arrive pas. C'est un animal. Il fait waf waf. Donc, il ne s'est pas discerné par l'esprit. Donc, il faut que je touche. Il faut que je touche. Il y a une profondeur. Donc, au début, il commence par la main. Après, il monte la main. Ça va sur les épaules. Ça descend. Tout ça là. Hein? Et puis, tu as dit, bon, si je l'embrasse, c'est le toucher. Là, c'est même le mélange du toucher et du goût. Je mélange les deux, gars, c'est trop fort. Et en plus, si le gars, il parle, il dit des bonnes paroles, donc on mélange le toucher, la goût, l'odorat. Donc, quand le gars, il dit, hey baby, I love you. Suzy, j'espère qu'il y a pas de Suzy dans la salle, j'espère qu'il n'y en a pas. Ce n'est que pour une illustration, faut pas te fâcher. James, oh pardon, pas James, il y a un chef qui a James, c'est non, pas James. On va prendre Jules. Oh, ok, tant pis. Bon, laissez-moi prendre un prénom quand même, pour la radio. Jules. Donc, quand Jules arrive, il dit à Suzy, T'as une belle peau. Et dès que je t'ai embrassé, oulala, j'ai senti que tu étais ma femme. Est-ce que tu sais, ça c'est l'essence. Et c'est comme ça que les gens se marient. En regardant le regard, les cinq sens. Corpulence, 1m80, c'est pas mal. Ensuite, toucher, poilu, pas mal. Ensuite, bisous, c'est pas mal, c'est bon. Donc, pasteur, j'ai trouvé mon mari. J'ai commis l'adultère, la fornication avec et j'ai trouvé... Mais est-ce que tu as discerné par l'esprit? Parce que si tu te bases sur le fait de toucher, d'embrasser, sache que Judas a embrassé Jésus. C'était un baiser de trahison. Quelqu'un dit amen. Non mais réalisez, Dieu m'a expliqué ces choses. Nous, je suis un être esprit, mais je n'ai pas appris à développer mon esprit. Or, la parole est vie, elle est esprit, elle opère dans le niveau de l'esprit. Mais on m'a appris qu'une parole n'a pas de réalité. Quoi? Mais la réalité pourtant montre quand même qu'une parole fait plus de dégâts qu'un couteau. Mais il persiste à dire quand même que ça n'a pas de réalité, ce n'est pas vrai. Qui t'a dit ça? Et donc, la plupart, c'est pas compliqué, le monde aujourd'hui est dirigé par les gens qui développent leurs facultés spirituelles, même lorsqu'ils ne sont pas chrétiens. Mais ils ont appris la faculté de voir par l'esprit. Et ils ne sont pas nés de nouveau. Quand ils vont mourir, ils iront en enfer. Mais sur la terre, ils arrivent à faire quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que nous, même étant nés de nouveau, opérons à un niveau charnel, on n'a rien compris. Quelqu'un dit amen. Le monde est dirigé par les visionnaires. Le monde est dirigé par des gens qui ont exercé leur capacité spirituelle. Parce que j'ai compris une chose. Les solutions aux problèmes de la terre se trouvent dans le monde spirituel. La Bible dit dans Proverbe 25, verset 1, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder, de les découvrir. Tout est à découvrir sur la terre. Et les gens qui sont distingués dans la vie, ce sont des gens qui arrivent à puiser dans un réservoir spirituel des solutions que dans le monde, personne ne trouve. Exactement comme Joseph. Dieu dit à famille, mais on fait quoi? 7 ans de famine, 14 ans, 7 ans de famine, 7 ans de période d'abondance, 7 ans de disette, de galère. On fait quoi? Il faut des fils de Dieu pour aller en connexion. Parce que dans le monde, il n'y a pas de solution. Là, il n'y a pas de solution. Parce qu'il y a deux formes d'information. Il y a deux formes de connaissances. Il y a l'information et il y a la révélation. L'information, c'est ce que les sens m'ont indiqué. C'est ce que j'ai appris à l'école. La révélation, c'est ce que j'apprends dans la connexion avec Dieu. Quelqu'un dit amen. Et il faut les deux. Il faut s'instruire par la connaissance, l'information. Mais il faut plonger dans la révélation. Et lorsque tu te connectes à Dieu, tu reçois de Dieu des réponses sages et stratégiques aux problèmes de l'humanité. Et Dieu veut des fils qui sont capables de rentrer en connexion avec lui comme Joseph. Et quand ils sortent de là, il dit Pharaon, c'est bon, j'ai l'explication. Je sais comment il faut gérer là. Je sais comment il faut gérer la crise qui vient. Je sais comment bâtir le foyer. Je sais comment solutionner ce problème. Je sais comment guérir cette maladie. Dieu m'a dit. Amen. Quelqu'un dit amen. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés à dépendre des sens. Alléluia. Tu dois comprendre une chose, mon frère, ma soeur. Une femme n'est pas enceinte, parce que je vous rappelle que le mot semence vient du mot grec sperma. Et la parole nous dit, la Bible dit dans Matthieu 13, que la parole, la semence, c'est la parole. La semence, c'est la parole. Le mot semence, c'est le mot grec sperme. Sperma. Et une femme ne tombe pas enceinte parce qu'un homme a libéré sa semence par terre. Il faut que cette semence aille dans une matrice, aille dans le sein de la femme. C'est lorsque cette semence est déposée que là, il peut y avoir... Comment ? Fécondation, c'est ça, non ? On appelle ça fécondation, non? Fécondation. Oui, tu as raison, ce n'est pas ovulation, c'est fécondation. Parce que au premier culte, j'ai dit ovulation. Mon Dieu, effacez le message du premier culte, effacez tout. Effacez tout. Quelqu'un dit amen. Tout ce que tu as à faire, c'est de recevoir la semence. Le problème, c'est que comme tu es habitué à penser avec les sens, tu ne reçois pas la semence. Quand la semence vient, Dieu dit, tu puis tout par Christ qui te fortifie. Tout de suite, toi, tu dis, oui, mais je sens quand même que j'ai trop échoué. C'est le je sens, là, qui nous coûte cher. Et qui empêche la parole d'être reçue. Or, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçue, elle est venue chez les cieux, les cieux ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, là, la parole a donné un pouvoir terrible, celui de devenir. Il y a un pouvoir énorme dans ce que je reçois et que je conserve intact. Tout ce que tu as à faire, c'est de recevoir la semence. Tu as déjà vu une femme qui va voir le gynéco et lui dit, bon, vous devez m'expliquer, je vais bien être enceinte, mais de m'expliquer tout le processus. Quand est-ce que le liquide amniotique va commencer? Quand est-ce que le cordon ombilical va se faire? Mais qu'est-ce que tu en sais? Non, les gars, ils n'ont même pas les réponses. C'est un mystère à leurs yeux. Quelqu'un dit, c'est un mystère. Tout ce que le gynéco te dit, c'est madame, maintenant que la semence a été déposée, et qu'il y a eu fécondation, prenez garde à vous-même. Faites attention à ce que vous entendez, parce que ce que vous entendez peut tuer l'enfant. Ça peut exciter tes émotions, et tes émotions peuvent créer une hypertension, et tu perds la grossesse. Protège-toi. Fais attention à ce que tu manges, fais attention à ce que tu entends, parce que ça va avoir un impact sur la qualité de la semence. Mais la semence est là, et elle est bien réelle. Et dès qu'il y a fécondation, il y a initiation d'un processus qui était un mystère. Ecclésiastes chapitre 11, versets 4 à 5, verset 5 surtout, nous dit ceci. De même que tu ne sais pas comment le souffle ou les os se forment dans le ventre de la femme enceinte, de même tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne sais même pas. Parce que, écoutez-moi, prenez une goutte de sperme, mettez-la au microscope, vous n'allez pas voir en regardant dans le microscope, vous n'allez pas voir un enfant. Tant que le sperme est à l'état brut, est-ce que tu vois un enfant? Tu ne vois rien. Mais est-ce que tu te rends compte que même quand on voit rien au microscope, est-ce qu'il y a une vie dedans? Oui. Ça veut dire que dans ce sperme, il y a un corps, des yeux, une bouche, des mains, des pieds. Tu ne les vois pas. Mais toi, tu veux d'abord les voir. Non, elle est là, mais c'est invisible. Et la Bible nous dit, c'est un mystère. Les scientifiques ne peuvent pas le contester. Ils le constatent. Ils ne parviennent même pas à l'expliquer. Ils constatent simplement que c'est un mystère. Quelqu'un dit mystère? Tu ne peux pas l'expliquer. C'est juste là. Tout ce que Dieu te dit, mais tout ce que tu as à faire, c'est reçois. Reçois, accepte la parole. Accepte. Je fais des compliments. Je les dispatche dans la nature. Le problème, c'est que vous ne les recevez pas. Je prononce toutes sortes de paroles. Tu es venu en Christ. J'ai bombardé Christ de toutes sortes de paroles. Moi, les rois n'ont pas besoin de. Les rois ne sont pas des opérationnels. Les rois lancent simplement des paroles. Et les serviteurs les exécutent. Dieu n'a pas besoin de, faire plusieurs choses. Tout ce que Dieu a besoin de faire. D'ailleurs, c'est ce que dit la Bible. Hein. La Bible dit quand Dieu fait quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie seulement une parole. Dis seulement une. Il n'a pas besoin de faire plus. Dis seulement une parole. Parce que dans la parole, il y a une vie. Il y a des instructions invisibles. Il y a une puissance dans la parole. Et Dieu dit, le problème, c'est que quand je prononce des paroles, toi, tu me réponds en disant, oui, mais je sens que. Et tu annules l'effet de la parole. Dans le sperme, là, il y a un enfant. Et dans le sperme de la semence spirituelle de la parole, il y a un enfant. Tu n'as pas besoin de savoir à quel moment va commencer le liquide amniotique, à quel moment va commencer le cordon. Hein? Tu n'as pas besoin de savoir. Tout ce que tu as à faire, c'est garde la semence. Garde-la, garde-la. Tu ne sais pas comment. Mais au moment donné, tu commences à ressentir que tu n'es plus la même personne. À l'intérieur, tu sens qu'il y a quelque chose que tu transportes. À l'intérieur, tu sens qu'il y a quelque chose qui te bouge. À l'époque, tu étais broke down, dégoûté, dégoûtant, démembré, démantelé. Maintenant, tu te sens rempli d'assurance. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas encore vu le miracle, mais tu sens qu'il y a une sérénité. Tout le monde panique. Toi, tu es calme. Pourquoi? Il y a une semence. Il a dit, je suis avec toi. Dès qu'il a dit, je suis là, ça te suffit. Il n'a pas dit, je vais faire. Il a dit seulement, ne t'inquiète pas. Je tiens toutes choses dans ma main. Le fait que Dieu me dise ça, ça me suffit. Dieu m'a donné une parole. Il m'a dit, personne ne te vaincra. Personne ne triomphera de toi. Personne. Il m'a dit... Il m'a donné le psaume 89, mais il a appliqué. Je l'ai senti que c'était pour moi. L'ennemi ne te sur... Il a dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Mon oint, je l'ai oint de mon huile sainte, parce que c'était un adorateur. Et comme je suis un passionné de Dieu, il a dit, comme tu fais comme David là, je te dis une chose. Ce que j'ai dit pour David, je le dis à toi. Écoute-moi bien. L'ennemi ne te surprendra pas. Le méchant ne t'opprimera pas. J'écraserai devant toi tous tes adversaires. Et je frapperai ceux qui te haïssent. Il n'a pas dit ceux qui disent du mal, ceux qui gardent dans ton cœur de la haine. Je les frapperai parce que je les tabasserai. Je les taperai. Dès que j'ai entendu cette parole, j'ai commencé à adorer. Mais c'est planté. Et tu vois, ça produit de la sérénité. Tout le monde panique. Ils disent, ouais, il y a eu une assemblée générale de l'occultisme où ils ont décidé de délibérer sur ton frère et toi. Ça, c'était récemment au mois d'août. Une assemblée générale occulte où ils ont décidé de délibérer sur Ivan Castelnau et Yves Castelnau. Vous savez pas ça, vous ne priez pas pour nous. Heureusement qu'il y a des gens qui disent, bon, non, je sais que toi, tu pries. Toi, tu pries. Mais non, on a besoin de prière. Il y a des gens qui estiment qu'on est dangereux. Ça, c'est Dieu nous a révélé ça par des prophètes. Il y a des gens qui ont fait une assemblée générale pour envoyer contre vous toutes sortes de calamités. Tu dis en bon. Et quand tu entends une nouvelle comme ça, là, tu as envie de paniquer. Mais tu sens la parole qui dit, je t'ai déjà dit, l'ennemi ne te surprendra pas. Le méchant ne t'opprimera pas. Je vais écraser sous tes pieds. Et je frapperai, je tabasserai. Donc cette parole fait en sorte que là où les gens paniquent, les gens disent, oulala, sorcier, il veut m'attaquer. Toi tu es serein, tu dis, robo chente caremo. Hey, hey, hey. Oh! On dit, mais normalement, lui aussi devrait aller chercher des gris-gris pour se protéger. Mais il te trouve en train de te prosterner et à lever les mains, à adorer. Mais pourquoi tu adores? Faut te préparer. Tu dis, j'adore, tu comprends pas ce que je suis en train de faire, tu commanderas plus tard. Quelqu'un dit, amen. Dans cette semence de la parole de Dieu, il y a une puissance. Il y a une vie. Chaque graine de tomate ne produira pas des pommes. Pourquoi? La graine de tomate, tu ne le vois pas, c'est un mystère. Il y a tout un code à l'intérieur. Dans le corps humain, c'est le code génétique. Je ne sais pas si c'est génétique dans les plantes, dans les graines, mais je te dis, il y a un code avec des messages à l'intérieur. La graine sait que lorsqu'elle va à l'intérieur, il y a un message qui dit, produis-moi d'autres graines de tomates. Pas de pommes, ce n'est pas possible. Reproduis-toi avec des tomates. Il y a un message, il y a une vie. Dans la parole de Dieu, il y a une vie. Amen. Tu ne peux pas comprendre ce qui va se passer. Tout ce qu'il te dit, c'est reçois. Quand tu reçois tout ce que je te dis, sans discuter, sans contester, sans dire oui mais je sens, dès que tu acceptes cette parole, il y a un mécanisme qui se met en marche. Alors la Bible dit, cette parole donne le pouvoir de devenir. Il y a une puissance, un pouvoir qui est en action que tu ne comprends pas. C'est un mystère, mais tu commences à sentir des choses et au bout de quelques temps, au bout de quelques mois, tu vas voir la manifestation d'un enfant qu'on appelle un témoignage. C'est exactement comme ça que ça se passe. Le problème, c'est que vous ne la recevez pas. Vous discutez. Et je suis un bon exemple de quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à discuter, à contester. Seigneur, je ne comprends pas. Je finis avec ça. Pour donner une illustration, comment ça m'est arrivé. Je l'ai déjà raconté, je le raconte encore. J'étais lié, vrai problème avec les femmes, à ma conversion, 95. Pas aujourd'hui, 95. J'étais sincère. Je venais d'accepter le Seigneur. Je voulais bien faire. Mais je n'avais pas compris que la vie chrétienne commençait par le repos et pas par la course. Calme-toi, assieds-toi et comprends ce que tu as fait. Mais non, j'étais zélé. J'ai pris dans ma chambre, j'écrase, je lis, parce que je chantais des mauvaises pensées tout le temps. Les convoitises, je convoitais les femmes en Italie, là-bas, en plus, un pays de Méditerranée. Mon Dieu, comment je fais pour m'en sortir? Alors, j'étais agressé en permanence par des femmes qui mettaient des vêtements bizarres, des mini-jupes, enfin, des jupes qui s'arrêtaient juste en dessous des fesses. Bon, enfin, bref. J'ai dit, Seigneur, moi, je veux vivre dans la sainteté. Alors, quand c'est comme ça, j'ai passé mon temps, au nom de Jésus, je terrasse, j'écrase, je piétine, je prends l'épée de l'esprit, je te transperce au niveau de la gorge, j'essaie par le cou, j'essaie par la poitrine, je te tape, tout ça là, rien. Esprit de séduction, je te détruis, je t'écrase, rien. Je sors de là, je combats ton corps. Je dis, Seigneur, l'esprit, il faut me délivrer, je n'en peux plus. Et Dieu me dit, je vais te parler. Je vais te parler, je vais écouter mes paroles. Je dis non, Seigneur, il y a une réalité là, on est dans le combat. Au nom de Jésus, pas le temps de t'écouter, Saint-Esprit, pas le temps de t'écouter. Il faudra voir qu'on combatte. Au nom de Jésus, je taille, je détruis, je terrasse, je chasse. Je chasse tout ça, rien ne change. La colère est là, la convoitise est là, la masturbation est là, la haine est là, la rancœur est là. Dieu veut te dire, est-ce que je peux te parler? Non, 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 attends d'abord. Au nom de Jésus, Seigneur, change, 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 j'en ai marre. Et tout le temps, tu tombes dedans. Jusqu'à ce que Dieu me dit, tu n'as pas compris. Et quand j'étais fatigué, maintenant j'étais assis, j'ai dit, maintenant parle-moi. Dieu m'a dit, est-ce que tu as déjà vu un cadavre qui bouge? Et Dieu m'a fait comprendre. Il m'a dit, je l'ai enseigné à l'école biblique sur le cours sur le baptême. Dieu m'a amené dans une vérité, la compréhension de quelque chose de simple, à savoir que j'ai déjà prononcé des paroles. Tu vois, regarde, Romains chapitre 6, verset 2. Il dit, écoutez, à partir du verset 2, je vous lis rapidement. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Quand tu lis ça, toi tu ne comprends rien. Tu dis, mais de quoi on parle? Et puis après au verset 10. Il dit, car il est mort, et ce n'est pas pour le péché, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ça veut dire, Paul, c'est parce qu'il a dit ce que tu dis là. Que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels, n'obéissez pas à ses convoitises. Mais quand je te dis, je suis en train de lutter ici avec le péché. Il dit, mais tu n'as pas compris. École biblique, cours sur le baptême. J'ai expliqué ça. Tu n'as pas compris. Il me dit, mais tu n'as pas réalisé une chose. C'est qu'en toi, d'abord, il y a deux lois. Il y a deux natures. Il y a la vieille nature et il y a la nouvelle nature, celle de Christ. Tu n'as pas compris que ta vieille nature, bien qu'elle était encore en toi, a été crucifiée. Ça veut dire que quand Jésus était en train de prendre des clous, c'est elle qui prenait des clous. Et quand la Bible dit que tu as été enseveli, nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême, ça veut dire que quand Jésus est rentré dans la tombe, ta vieille nature est rentrée dans la tombe. Et quand il est ressuscité, c'est ta nouvelle nature qui est ressuscitée. Et la nature que tu as héritée de Adam, celle qui a la colère, l'amertume, la haine, le rancœur, les abus, tout ça là, cette nature-là est restée dans la tombe. Elle est là, mais elle est dans la tombe. Elle peut parler. Elle a une bouche. Elle peut parler. Tu dis oui, mais le problème c'est que moi je sens le péché. Tu m'as dit, mais en fait, en toi, il y a deux personnes. Il y a deux natures. Alors voilà comment il m'a libéré. Il m'a dit, est-ce que tu acceptes d'abord lorsque je dis tu es mort? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta vieille nature est morte. Elle est crucifiée. Est-ce que tu acceptes? Il dit, non, mais comment tu peux dire la vieille nature est crucifiée alors que je sors? Est-ce que tu acceptes? Il dit, ok, j'accepte. Bon, maintenant, accepte de te voir comme mort, de voir cette nature comme morte. Mais, quand, tu vois, quand tu te balades, tu balades avec toi un cercueil. Parce que la vieille nature fait partie de toi. Donc, c'est comme si partout tu vas, tu transportes un cercueil avec ta vieille âme dedans. Et chaque fois, la haine vient frapper à ta porte et la haine dit, toc, 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 m'a fait trop de mal. La vieille nature, la haine vient parler à qui? À ton vieil homme. Parce qu'il a bavé, il a souffert, bien fait pour lui. Il a souffert, il a enduré beaucoup de choses. Et tu ne te rends pas compte que lorsque la haine dit toc, 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 la haine ne parle pas à l'homme nouveau, celui qui est maintenant le propriétaire des lieux, celui qui est Christ, l'espérance de la gloire. Alors Christ en moi répond, dit, vous voulez quoi? Je suis la haine. Oui, mais en moi, il n'y a pas de haine, vous voulez? Ah, c'est peut-être lui là-bas, celui qui est dans le cercueil, là, qui est crucifié. Oui, mais il est bloqué, il ne peut pas répondre, il est mort. Je dois lui parler. Non, non, il est mort. Il n'y a pas de place pour lui, c'est tout. La haine va repartir. Mais chaque fois que tu réponds à cette sollicitation du péché, tu viens de faire ceci. Tu es reparti dans la tombe, tu as pris la pelle, tu as exhumé, tu as dit, vieil homme, je dois te faire sortir de là. Tu as fait une profanation, hein, une profanation de tombe. Et puis, tu l'as fait sortir, tu l'as pris et tu as dit, maintenant, va ouvrir la porte. Et le vieil homme l'a dit, voilà, je suis la convoitise. Haine, embrassons-nous, toi et moi, convoitise. Voilà. Et quand Dieu voit ça, il dit, oh là là, il n'a rien compris. Tout se passe dans le champ de ta pensée. C'est pour ça qu'on parle du renouvellement de la pensée. Tout est à l'intérieur. Et tu luttes parce que tu ne comprends pas. Et tu n'acceptes pas. Il dit, tu es mort. Vois-toi comme mort. Et j'ai été délivré comme ça. Avant ça, je m'étais moi-même imposé les mains. J'avais mis sur la joue gauche, ça ne marchait pas. La joue droite, j'ai essayé le dos, le cou, ça ne marchait pas. Et j'ai essayé la parole. La parole a produit des résultats. Amen. Quelqu'un dit amen. La seule clé, c'est est-ce que tu acceptes lorsque je dis que tu es une créature si merveilleuse. D'accord, on t'a dit que tu étais moche. Ok. Pas belle, beau, pas beau. Qu'importe. Mais est-ce que tu acceptes ce que je dis? Si tu acceptes ce que je dis, tu vas voir que tu vas être enceinte à l'intérieur. Et au bout d'un certain temps, tu vas voir une personne marcher avec grâce et majesté, solennité et excellence. Une personne, parce que les gens te traitent toujours comme tu te traites toi-même. Quand tu te rejettes, les gens vont te rejeter. Quand tu marches la tête baissée, les gens vont prendre ta tête, ils vont te l'enfoncer. Ils te traitent toujours comme tu te traites. Est-ce que tu me suis? Mais est-ce que tu acceptes? Je dis, tu es une créature merveilleuse, un chef-d'œuvre de Dieu. Oui, mais moi, le problème, c'est que mon papa a dit, je t'apporte d'autres compliments. Ton père n'était que ton géniteur. Je suis ton vrai père. Je viens changer, renouveler, mettre de nouvelles paroles, ce qu'on appelle des compliments. Je te dis, tu es belle, ma fille. Tu es précieuse à mes yeux. Tu as du prix et je t'aime. Créature si merveilleuse, lumière du monde, celle de la terre. Est-ce que tu l'acceptes? Parce que tu ne brilles pas tant que tu n'acceptes pas que tu es la lumière. Tu ne réponds pas à la saveur tant que tu ne te considères pas comme un sel. Mais quand tu te considères comme un sel, quand tu arrives quelque part, tu t'attends, je dis bien tu t'attends à ce que l'environnement soit changé par ta présence. Mais quand tu n'es pas conscient d'être un sel et que les choses, l'environnement ne change pas, tu trouves ça naturel. Mais si tu es conscient d'être le sel et que les gens ne changent pas, tu te dis, il y a quelque chose en moi qui ne doit pas être normal. J'ai dû perdre un peu de saveur. Parce qu'en temps normal, je dois donner à ces gens l'envie de le connaître. Je dois donner à ces gens l'envie de dire, moi, si je veux être comme toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit, la seule chose que je te demande, accepte. À ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, qui croient en cette lumière, en cette source, en ce Père, en cette parole. La parole a un pouvoir de transforme. Inclinons la tête et prions. Prie, élève la voix, prie là où tu es. Dis, Seigneur, aide-moi. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus rejeter ta parole. Je ne vais plus laisser les cinq sens m'impressionner. Je vais entrer dans la dimension de l'esprit comme l'aigle, Seigneur. Je vais prendre mon envol. Marcher comme les fils de Dieu, qui sont comme le vent, Seigneur. Incontrôlable par le péché. Incontrôlable, indomptable par la chair, le monde. Non, Seigneur. Un fils de Dieu qui se mouvoit, qui marche par l'esprit, qui n'accomplit plus les désirs de la chair. Aide-moi à comprendre et à intégrer cette parole au plus profond de mon cœur. Change-moi. Mets en moi, Seigneur, un cœur nouveau. Un cœur qui entend les paroles, les semences jetées du royaume. Les semences qui sont libérées par Dieu. Il en libère dans le domaine de la guérison, du mariage, dans tous les domaines de la santé, du travail. Dieu a des plantes, il a des semences, des paroles qu'il a arrosées. J'ai des bonnes nouvelles. Tu ne peux plus être lié par le diable parce que je t'ai déjà délivré. Ne cherche pas la délivrance. Opère maintenant, accepte et tu verras la manifestation de cette délivrance. Ne me dis pas, je suis encore possédé, je suis encore lié par les démons. J'ai dit, je t'ai changé de royaume. Tu as quitté les ténèbres de Satan. Tu es arrivé à la justice dans le royaume de mon fils. Bien-aimé, je te demande juste d'accepter cette parole. Accepte cette parole. afin que ma puissance puisse commencer à se déployer. De même que tu ne comprends pas comment le sperme arrive à engendrer un enfant avec des yeux et avec un corps. De même, tu ne comprends pas qu'il y a un corps spirituel appelé témoignage à la gloire de Dieu qui doit sortir de toi. Sors des cinq sens. Entre dans la dimension de l'esprit. Entre dans la dimension de l'esprit. Il a dit, mon juste vivra par la foi. À ceux qui l'ont reçu, à cette parole qu'ils ont reçue, cette parole esprit et vie, il y a une vie. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. À partir d'aujourd'hui, cette parole ne tombera plus sur le ciment de ma tête. Elle rentrera dans le champ de mon cœur. Elle fait de moi un visionnaire, quelqu'un qui voit l'invisible, qui accomplit l'impossible. Une personne libérée, restaurée, épanouie, prospère, resplendissante, solennelle, gracieuse, majestueuse, merveilleuse. Une personne qui se regarde dans la glace et qui dit, je te loue de ce que tu m'as fait, créature si merveilleuse. Levons-nous dans sa présence, levons-nous, levons-nous. Hey, lève les mains, en dire je reçois ta parole à partir de maintenant. Je change d'attitude. Ce que tu dis, même si mon vieil homme disait ce n'est pas vrai, tu n'es pas libre, je dirai à mon vieil homme, tu es dans la tombe, reste dans cette tombe, reste là-bas. C'est le nouvel homme qui règne maintenant, c'est Christ en moi. Et je suis comme mon Père, il est mon Père, mon commencement, mon origine, ma source. Je suis son image, je suis sa ressemblance. Il est puissant, je suis puissant. Il est capable, je suis capable. Il est saint, je suis saint. Il est glorieux, je suis glorieux. Et... ah, je te dis merci à toi, Seigneur. Comme Marie ce matin, je dis qu'il me soit fait, qu'il me soit fait, qu'il me soit fait, qu'il me soit fait, selon ta parole, selon ta parole, qu'il me soit fait. J'accepte d'être enceinte, j'accepte la fécondation, j'accepte, 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 et je renonce au mensonge de mon vieil homme, de ma vieille nature. C'est terminé. Maintenant, je marcherai en nouveauté de vie. Lève les mains, lève les mains. Lève la voix, dis-lui merci. Dis-lui qu'il me soit fait. Qu'il me soit fait. Qu'il me soit fait. Selon ta parole. Selon ta parole. Qu'il me soit fait. Qu'il me soit fait. Qu'il me soit fait. Selon ta parole, j'accepte, je déclare aujourd'hui, nouveau commencement. Tu dis que je suis guéri, j'accepte et je renonce au mensonge du diable, de mon vieil homme qui me disait je suis malade. Je dis guérison maintenant, l'onction brise le joug, maintenant, maintenant, maintenant. Et à partir de maintenant, plus personne ne contestera cette guérison. Je ne douterai plus. Je dirai simplement, tu fais toutes choses parfaites. En t'entendant. En t'entendant. On m'a dit que j'étais nul. Personne ne voulait de moi. Mais j'accepte. Parce que tu as voulu de moi. Tu m'as accepté. Et tu m'avais placé en Christ avant la fondation du monde. Tu m'avais déjà accepté. Tu m'avais déjà emmené dans une intimité avec toi. Reçois la louange. Reçois la gloire. Reçois, Seigneur. Ses mains levées vers toi sont un signe d'abandon, un signe par lequel j'émets un message. Et je dis, j'accepte, Père, qu'il me soit fait à partir de maintenant, selon ta parole. Qu'il me soit fait à partir de maintenant, selon ta parole. Ah, maintenant j'ai compris le secret, Seigneur. Une personne est en train de naître. Je vois la fécondité. Je ne... non, la stérilité, c'est un mensonge. C'est fini. Je dis fécondité, productivité, excellence. Gloire, splendeur, rayonnement, opportunité, faveur, accroissement, élévation, promotion, distinction. Merci, parce que mon vieil homme n'a plus d'emprise. Quand tu es sorti de la tombe, il y est resté. Et je déclare que par la grâce de Dieu, il restera. Et lui et ses mensonges, et ses voix de tromperie et de mensonges se taisent dans mon esprit. avec tout en moi. Écoute la voix du bon berger et obéis aux instructions du bon berger. Pour ce que tu as commencé et pour ce que tu rendras parfait ce que tu as commencé. Je dis à toi, sois louange, honneur et gloire et puissance. Action de grâce. À toi, à toi, à toi. À toi, à toi, à toi. À toi, l'honneur, à toi. Acclamation pour celui qui m'a sauvé. Acclamation pour le commencement. Et la fin, la parole, la parole, la parole, la parole qui m'a libéré, la parole qui m'a sanctifié. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus, à toi, à toi.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.